grand reportage.
Cette émission est une rediffusion.
Bien sûr, Venise a les pieds dans l'eau, mais les marées saisonnières, conjuguées au changement climatique, font grimper le niveau des eaux. Jusqu'à 1,87 m sur l'emblématique place Saint-Marc en novembre dernier, du jamais vu depuis 1966. Cet épisode d'Aqua Alta, comme on dit, la marée haute, est venu rappeler aux Vénitiens combien leur ville est vulnérable. Entre solutions pour sauver Venise, colère ou résignation des habitants, le destin d'une des plus belles villes du monde n'a jamais semblé aussi menacé. Montée des eaux, Venise peut-elle mourir? C'est un grand reportage d'Éric Sénanc.
Nous sommes au café Rosso, dans le quartier de Dorso Duro, au sud de Venise. Sa devanture rouge et ses boiseries sont parmi les plus connues des Vénitiens. Un établissement d'habitués, de fidèles, loin de la carte postale touristique de la place Saint-Marc. Derrière le comptoir, c'est Betty, la patronne, qui fait couler les cafés. Le 12 novembre dernier, l'eau a envahi tout son établissement, un jour qui restera dans sa mémoire.
À un certain moment, les mie gambe erano diventate unità di misura.
À un certain moment, mes jambes sont devenues une unité de mesure et elles font 1,15 m. L'eau est rentrée dans les cuisines, a inondé toutes les machines, les réserves, les frigos. L'eau dépassait les marches et montait du sol. Vous ne pouvez même pas imaginer, c'était vraiment ingérable. On essaie de garder le moral car on est habitué. Ici, c'est un lieu historique qui a plus de 150 ans et qui en a vu des marées hautes. Mais une marée comme celle-là...
qui a plus de 150 ans, qui n'a vu pas d'acqua alta, mais comme questa.
Pour nombre de Vénitiens, la marée haute du 12 novembre a rappelé combien leur ville était vulnérable. Depuis des années, Venise subit les effets combinés de l'affaissement des sols et de la montée des eaux en raison du changement climatique. Les registres de la ville montrent que depuis 1870, le niveau de la mer y a augmenté de 26 cm, la moitié étendue à l'enfoncement de la lagune. À cela s'ajoute aussi la multiplication des phénomènes de tempêtes. Le 12 novembre au soir, le vent a soufflé à 120 km/h. Face à la violence de la montée des eaux, la solidarité des Vénitiens a été exceptionnelle, comme raconte Betty, et a mis du baume au cœur à de nombreux commerçants.
Tous les voisins qui habitent près d'ici, dans un rayon d'un kilomètre, ont des frigos et des congélateurs pleins de brioches, de fromages et de jambon que nous y avons apportés, car nos appareils sont hors service. On y a mis tout ce qui se mange et qui doit rester au frais. Même la petite vieille qui vient depuis toujours boire son café ici, pour la première fois, c'est moi qui suis allée chez elle. C'est la mère d'un de mes collègues. Et puis je dois dire que ceux qui travaillent ici sont venus sans demander à être payés. La mère de ce collègue m'a apporté des pâtes. Une poêle chaude de bonnes pâtes, c'est la plus belle chose au monde.
C'est toute une chaîne humaine.
Oui, absolument, toute une chaîne humaine. J'ai quitté le café démoralisé après l'inondation. Et quand je suis passée chez moi, j'ai vu la propriétaire d'un restaurant voisin qui m'a demandé « Dis-moi, est-ce que tu as un frigo ?» Et donc là, mon frigo est plein de falafel, de viande de mouton. J'ai tout le restaurant voisin dans mon frigo.
Comme chez Betty, le dernier épisode exceptionnel de marée haute, 1,87 m, a réveillé une colère contre les politiques et les autorités publiques chargées de protéger la Sérénissime, l'ancien nom de la République de Venise.
Qu'il laisse gérer la ville à ceux qui y vivent et non à ceux qui restent plantés derrière un bureau. Ici, ils ne savent pas du tout comment on vit. Venise, ce n'est pas que la place Saint-Marc. C'est une ville où vivent des gens qui investissent, qui ont décidé de résister. Mais ils ne nous auront pas. On n'abandonnera jamais.
Résister pour ne pas abandonner Venise à son sort. Lutter contre l'incurie d'une classe politique qui pense plus au tourisme de masse qu'à protéger la cité, c'est le sentiment chez de nombreux Vénitiens. Au centre des critiques revenues ces dernières semaines, le Mose, un gigantesque barrage hydraulique censé s'activer en cas de forte marée et dont les premières ébauches sont nées dans les années 80. Mose est l'acronyme de Module Expérimental Électromécanique. C'est aussi le nom de Moïse en italien qui traversa à sec la mer Rouge. Au total, 78 digues mobiles ont été construites dans les embouchures de la lagune vénitienne. Un chantier titanesque qui a débuté en 2003 et qui ne sert pour l'instant à rien car il reste inachevé. La corruption et l'affairisme des élites politiques et économiques locales ont déjà englouti près de 5 milliards d'euros et retardé considérablement le chantier. Nous allons justement visiter cet ouvrage tant décrié. Direction la passe du Lido, l'une des trois embouchures de la lagune au nord-est de la ville qui marque la frontière entre la cité des Doges et la mer Adriatique. C'est Alessandro Moru, le directeur du chantier du Mosée, qui nous le fait visiter. Il faut pour cela descendre à moins 12,70 m sous le niveau de la mer.
Sur ce dessin, on peut voir les caissons en béton et les galeries. Au-dessus se trouvent les digues en acier qui, quand elles sont pleines, reposent à l'horizontale sur le fond de la mer. Si l'on veut soulever la digue, on injecte de l'air comprimé par les tubes que l'on voit derrière nous. L'extrémité de la digue s'allège, se soulève et vient bloquer la montée de l'eau. Viene alleggerita all'estremità opposta rispetto alla cerniera,
creando un momento che permette il sollevamento dell'apparato. Le Mosée est une prouesse technologique pour l'instant inutile. Même achevée, les digues mobiles ne garantissent pas une protection contre la montée des eaux. Les parties en acier montrent déjà des signes de corrosion. Et jamais le barrage n'a été testé quand le vent soufflait à 120 km/h. En creusant la lagune, le chantier du Mosée est aussi montré du doigt pour avoir fragilisé encore plus Venise, laissant ainsi s'engouffrer les eaux de l'Adriatique dans les canaux de la Sérénissime. Le gouvernement italien, pressé par l'UNESCO, a imposé que l'ouvrage soit achevé avant la fin 2021. Sur le chantier, Mirko Angiolin, l'adjoint d'Alessandro Moru, ne cache pas une certaine forme de fatalité. Lui qui habite en face du Mosée et qui y travaille depuis 15 ans se veut lucide.
À chaque marée, on pense au Mosée, mais l'on ne voit rien. Après des années et des années à avoir dépensé, je ne sais pas combien, on n'y voit encore aucune utilité. Quelque chose nous dit que l'on ne peut sauver Venise. Non, pour l'instant, le Mosée ne peut pas nous sauver. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des scandales, mais surtout un manque de volonté d'achever cet ouvrage.
Mirko se dit néanmoins optimiste et jure que tout sera prêt pour 2021, que le barrage pourra se lever quand Venise en aura besoin. Retour sur la terre ferme, dans les vieilles ruelles de la ville. Ce soir, il est bien difficile de se frayer un chemin devant la librairie Bertoni. Le bouche à oreille a fonctionné. Son patron a en effet décidé de donner des centaines de livres endommagés par l'eau plutôt que de les envoyer à la déchetterie. Sur les étals, les ouvrages s'empilent, les pages gondolées. Parmi les curieux, Ivo, installé à Venise depuis 30 ans, il reconnaît de moins en moins sa ville et lui aussi, comme de nombreux Vénitiens, est fâché avec le Mosée.
Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu les travaux du Mosée, l'eau ne serait pas montée à ce niveau. En creusant la lagune, l'eau y rentre maintenant avec une violence jamais vue avant. C'est vraiment cette violence qui a surpris. C'était un mini tsunami. La lagune a été maltraitée. Le chantier du Mosée a réussi à défaire tout ce qui était positif pour protéger Venise. Le business du Mosée a tout ruiné.
La municipalité n'a pas donné suite à nos demandes d'interview, mais le maire Luigi Brugnaro a promis de transformer le Mosée, de le faire passer d'une honte nationale à un sentiment de fierté, selon ses propos. L'État italien a par ailleurs promis 150 millions d'euros par an pendant 10 ans pour que Venise lutte efficacement contre cette menace des eaux. Devant sa télévision, Andreina Zitelli écoute les déclarations du maire de la ville qui espère une renaissance de Venise après les dégâts des inondations. Des propos qui ont du mal à la convaincre. Cette professeure émérite à l'Université d'architecture de Venise a fait partie du premier comité d'évaluation de l'impact environnemental du Mosée. C'était en 1998. Déjà, à cette époque, les choix alternatifs au Mosée existaient, comme réduire la profondeur des canaux de la ville, des avis selon elle qui sont restés lettres mortes.
J'ai piloté l'expertise du projet Mosée pour le ministère de l'Environnement et l'avis que nous avions donné était négatif. Un avis qui a été totalement ignoré. Nous avions prévu des solutions alternatives pour contenir la montée des eaux, mais les intérêts privés ont dominé. Les trois embouchures de la lagune ont été creusées trop profondément, tout comme les canaux. La lagune de Venise n'a pas besoin d'une telle profondeur.
Andreina Zitelli souhaiterait que Venise soit mise sous tutelle internationale pour être sauvée, loin des intérêts politiques italiens. Elle ne cache pas son amertume devant les menaces qui pèsent sur sa ville, sur cette lagune qui sont inscrites en elle, comme chez de nombreux Vénitiens.
Ici, l'eau est inséparable de notre histoire. C'est comme demander à quelqu'un qui vit à la montagne le lien qu'il a avec la neige ou les sommets. Pour nous, l'eau, ça représente tout. Quand un Vénitien sort de chez lui, je sais que son œil va se poser tous les jours sur la couleur de l'eau. Ses variations, ses très légers dégradés vert et gris. Je crois qu'ici, on voit différemment les choses de ceux qui ne sont pas Vénitiens.
Credo che noi sappiamo vedere in maniera diversa dagli altri che non sono veneziani.
De quelle manière ce regard est différent?
Je ne saurais vous dire, mais voir cette eau, c'est pour nous, c'est une émotion continuelle, douce mais bien présente, silencieuse. Il n'y a pas un Vénitien qui sorte de chez lui sans regarder autour de lui.
Sur la pointe de la Salute, la vue est imprenable sur Venise et ses Vaporetto. De ce côté sud de la lagune, on y aperçoit les coupoles de la basilique Saint-Marc et le palais des Doges. C'est ici, à la Salute, que sont mesurées la hauteur des marées quotidiennes durant l'hiver. Des mesures retransmises en temps réel sur une application que presque tous les Vénitiens ont sur leur téléphone. À la pointe de la Salute, une grande basilique y a été construite en 1630 pour remercier la Vierge d'avoir sauvé Venise d'une épidémie de peste. Ce matin, nous y sommes à la veille de la fête de Notre-Dame de la Salute, une fête très populaire. Quatre siècles plus tard, la dévotion des Vénitiens qui protégea leur ville est encore très forte. Les fidèles n'y viennent pas prier pour éloigner une épidémie comme on l'aurait fait au Moyen-Âge, mais pour que la ville reste protégée des phénomènes climatiques exceptionnels. Quelques jours après les inondations, le patriarche de Venise, l'évêque local, a même écrit une prière de supplication à la Madone de la Salute. « Que votre prière soutienne celle de toute la ville qui vous reconnaît comme sa protectrice », écrit-il. Don Marco est l'un des prêtres de la Salute.
Ces jours-ci, la fête de la Salute est encore plus importante, comme dans la prière de supplique écrite par le patriarche de Venise. On se sent fragile et impuissant devant ces hautes marées, cette montée extraordinaire de l'eau. Et on veut remettre tout ça dans les mains de la Vierge et lui confier la ville. Le patriarche explique aussi qu'il faut prier pour les responsables politiques, pour qu'ils trouvent des solutions efficaces pour protéger cette ville.
Depuis toujours, les Vénitiens vivent avec ce rythme de la montée des eaux en hiver, mais la régularité et l'amplitude des marées suscitent chez eux l'inquiétude. En sortant de la basilique, nous croisons Beppe et sa fille Giorgia, un cierge à la main. Ils reviennent sur cet épisode d'Aqua Alta qui a envahi la ville.
On est habitué chaque année à avoir ces marées, mais là, c'est la deuxième fois depuis 1966 qu'on l'a vu à ce niveau.
Ici, si quelqu'un voit une opportunité pour faire de l'argent, cela lui est égal, même dans cette ville qui a 2000 ans.
On entend dans certains discours parler de la disparition de Venise. Vous y croyez?
Écoutez, je viens à peine d'acheter une maison juste à côté. J'espère que non. On entend dire que la marée haute a déjà eu lieu en 1966 et que donc ce n'est pas un problème climatique. Mais en 1966, c'était exceptionnel, alors que maintenant, cela se répète chaque année et ça a l'air toujours plus important.
Retour au Café Rosso où l'on croise Ilona, une habituée venue en voisine. Cette Française est une Vénitienne d'adoption installée depuis quelques années dans la ville où elle a ouvert une école de piano. Pour elle, il faut se garder des discours catastrophistes dans cette ville où l'eau est constitutive de l'histoire de Venise.
Il faut savoir que Venise, il y a des acque alte eccezionali tous les ans. Par exemple, l'année dernière, donc le 29 octobre 2018, je vivais ma vie comme tout le monde. C'était en pleine journée, j'étais avec une amie qui avait un enfant et je travaillais. Et il y a eu un pic de marée à 156. Et le monde entier n'en a pas parlé. Parce que, en fait, ça se produit malheureusement à peu près tous les 5-10 ans. Hein. Je crois que la dernière remontait à 2008 aussi haute. Donc, je pense que le, entre guillemets, c'est la fin de Venise, Venise cool, etc., qui sont des sortes de fake news, hein, ne sert pas la cause des militants pour le climat.
Ça, c'est un discours qu'on entend aussi ici, ce décalage entre toutes les fake news qui peuvent être dites et écrites sur Venise et la réalité.
Oui, alors je prétends pas être la voix de la réalité. Après, je pense qu'il y a plein, comme toujours, hein, il y a plein de perceptions. de la ville, mais quand on vit ici, déjà, enfin, je pense que quand je suis arrivée, donc j'habitais en France il y a quelques années, j'avais moi-même, j'étais pétrie d'idées reçues, et je crois qu'il y a vraiment un monde qui s'effondre quand on commence à prendre en compte la complexité de cette ville. Et c'est aussi une ville qui est très complexe et très, il faut du temps pour la comprendre. Et pour l'écouter. En fait, peut-être la chose qui m'a le plus surprise dans cette semaine d'Aqualta, c'est de voir la ville qui continuait à s'activer dans tous les sens, et même certains bars ouverts, certains supermarchés ouverts. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait énormément de magasins qui étaient fermés, etc. Mais il y a une sorte de vie qui continuait. Alors, évidemment, ça contrastait avec le tableau de fin du monde qu'on pouvait lire dans la presse internationale ou même nationale, hein, italienne.
La vie continue, en effet, les habitants nettoient des blés, mais si les eaux se retirent vite, la colère est toujours là. Sur le Campo Santa Margherita, l'une des places les plus fréquentées de la ville, nous retrouvons Roberto Ferrucci, né à Venise. Ce journaliste et écrivain est un amoureux inquiet de sa ville. Il y a quelques années, dans un récit intitulé « Venise et lagunes », Roberto Ferrucci dénonçait l'invasion croissante du tourisme de masse et ses grands bateaux de croisière. Après les inondations du 12 novembre, Roberto est encore plus sombre. Au lendemain de l'Acqua Alta, il a signé une tribune commençant par cette formule lapidaire « Venise est morte ».
On est passé à une dizaine de centimètres vraiment de la mort définitive de la ville. Et donc, j'ai écrit, j'ai utilisé naturellement ce mot comme un paradoxe, non ? Parce que comme la Fénice qui a brûlé et qui est ressortie comme elle, théâtre en 1996, aujourd'hui, on a la possibilité vraiment de ressortir de ce 12 novembre-là. Donc le 12 novembre, la ville est morte, mais elle est déjà vivante après 3 ou 4 jours parce que les Vénitiens ont se mis tout de suite à refaire vivre la ville.
Pour sauver Venise de la montée des eaux, les idées n'ont pas manqué ces dernières années. Des idées plutôt simples, comme réélever la lagune, mais qui n'ont jamais été retenues, ce qui fait grincer notre écrivain.
Élever la ville, c'était, il y avait un projet très simple et magnifique pour élever la place Saint-Marc. Le problème, c'était que c'était un projet très simple et pas du tout cher.
Donc on a choisi la complexité et le coût.
Ben oui, bien sûr, parce que, par exemple, commencer petit à petit à élever la ville, pourquoi pas, non ? On avait le temps. Hein.
C'était quoi ? C'était injecter de l'eau sous la ville ?
Non, moi, je ne suis pas ingénieur, mais j'avais lu à l'époque, et il a été, Massimo Cacciari, l'ancien maire de Venise, a dit, moi, je suis allé à Rome avec ce projet-là, que par contre, c'était aussi un projet du Consorzio Venezia Nuova, qui c'est le consorzio qui gère toute la gestion et la construction du Mons. Mais lui, il a dit avant-hier, publiquement, qu'ils n'ont même pas regardé le projet, même pas regardé. Et comme vous savez, le problème de la basilique de Saint-Marc, c'est énorme, parce qu'elle est toujours sous l'eau, toujours. Ah oui, parce que c'est la partie plus bas de la ville. C'est magnifique pour faire les photos, les selfies et tout ça, mais c'est ça.
D'ici 6 mois, toutes les digues du Mosé pourront fonctionner en cas d'urgence, a promis le maire de Venise en ce début d'année 2020. Les Vénitiens aimeraient y croire, car l'Acqua Alta du 12 novembre dernier n'est pas la dernière, et la prochaine fera peut-être encore plus de dégâts. L'urgence est désormais de trouver d'autres moyens pour sauver Venise et sa lagune de la montée inéluctable des eaux. Pour la Sérénissime, qui reste vantée pour sa résilience, il est peut-être temps de revenir à la raison, l'heure aussi d'écouter ses habitants, qui depuis trop longtemps se sentent un peu dépossédés de leur ville unique au monde.
Montée des eaux, Venise peut-elle mourir ? Un grand reportage d'Éric Sénanque, réalisation Pierre Chaffangeon.